Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans une heure en série, la dernière de l'année, saison 2, épisode 18, et en ce lendemain de Noël, que nous espérons que vous avez joyeusement fêté en famille ou entre amis, révélation du top 10 des séries honteuses, doudou, refuge, appelez-les comme vous voulez, en tout cas celles qui font du bien, que l'on regarde avec gourmandise, second degré ou pas, même si l'on sait que ce ne sont peut-être pas des séries d'exception ou des chefs-d'œuvre. Une chose est certaine, le plaisir de les voir et de les revoir est en revanche à nul autre pareil. Un top 10 composé des séries pour lesquelles vous avez été nombreuses et nombreux à voter, ce qui nous a fait vraiment extrêmement plaisir, et que j'ai saupoudré aussi de séries choisies par nos chroniqueuses et notre chroniqueur, qui en termes de mauvais goût s'y connaissent parfois très bien aussi.
Une heure en série, vos 10 séries les plus honteuses.
Et avec nous ce soir, non pas les plus honteux des chroniqueurs, mais les meilleurs, dans un état un peu second, hein, lendemain de réveillon oblige. Voilà, ils sont à la citrate de bétaïne et à la vitamine C,
mais même ça, lourde.
Ça ne les sort pas d'une certaine torpeur. AKN de French Mania et du Cercle
salut
sur Canal.
Salut Xavier, salut tout le monde.
Bonjour Ava, Isabelle Danel de bandeapart.fr.
Bonjour Xavier, bonjour tout le monde.
Et Benoît Lagan, une fraîcheur absolue, disons-le, quand même, abonné au 5-7 de Mathilde Munoz et de Télé Matin.
Bonsoir. Joyeux Noël à tous.
C'était hier.
Voilà. Ouais, bon, on peut se souhaiter jusqu'au jour de l'an.
Ah, j'ai pas les meilleurs, mais enfin bon.
Mais
ils étaient pas très chers. Donc, alors, vous êtes prêts pour le top 10 ?
On est prêts.
Prêt. C'est comme l'année dernière. Je ne vous dis pas le nom de la série. Je vous donne un indice musical. Le générique, la plupart du temps. Et à vous de jouer. Évidemment, on va couper le micro de Benoît. Comme ça, les autres pourront éventuellement participer. Premier indice pour la place numéro 10.
Sex and the City.
Ah, pas loin.
D'accord.
Pas loin.
Alors c'est un indice un peu compliqué parce que ça fait partie de la BO de la série et non pas le générique, mais la BO vraiment est une des vraies qualités de cette série.
Qui est
Emily in Paris.
Ouais.
Il faut lui laisser, c'est la prérogative masculine.
C'est pour ça qu'on
voilà.
Lui a laissé la parole.
Je ne dis pas, après il fait la gueule pendant une demi-heure et tout cela. Donc Emily in Paris, une saison de 10 épisodes à ce jour disponible sur Netflix. Je vous avoue que je n'avais pas vu venir Emily in Paris dans le top 10, mais voilà, il y a eu de nombreux votes. Allez, en deux mots, le résumé, ça tient pas plus sur plus de deux lignes. Hein. Emily, une jeune femme de Chicago, débarque à Paris pour intégrer une agence de pub. Savoir, rachetée par ses patrons, son petit ami ayant eu le mauvais goût de la larguer au premier épisode, la voilà libre de goûter les plaisirs nombreux de notre belle capitale. Seule ombre au tableau, son intégration dans l'équipe de Savoir ne se fait pas sans heurts. Et surtout, elle endure la franche détestation de sa boss, quintessence de la parisienne chic et snob.
Good morning, Gabriel. How are you today?
Good morning, Gabriel. How are you today?
Asleep. Thank you for asking. I was having a very nice dream, and this American girl banged on my door and woke me up.
Okay, what do I do until then?
Use mine. Well, there's just one problem.
What's that?
I like you.
Voilà, une série avec Lily Collins et Philippine Leroy-Beaulieu. En quelques mots, comment expliquer qu'Emily in Paris, série doudou qu'avait défendu Marjolaine ici même, figure dans ce top 10, certes à la 10e place, mais quand même. Isabelle Danel, ça c'est votre truc, Emily in Paris. Je sens.
Bah, pas complètement, mais en même temps, c'est sympathique, c'est rigolo, c'est coloré, donc voilà, ça fonctionne.
C'est pittoresque, comme on pourrait dire.
Voilà, mais c'est un tout petit peu paresseux, c'est dommage, parce que il y avait vraiment moyen de faire un maximum de punchlines, de phrases jolies, rigolotes, et je trouve que c'est un peu paresseux, les fins de scène, les gens tournent les talons, ou font « wow », c'est bon, voilà.
Il y a quand même un personnage de bitch avec Philippine Leroy-Beaulieu qui est
génial.
Savoureux.
De toute façon, le diable s'habille en Prada un petit peu, en
plus. Oui.
Mais voilà. Moi, je trouve que c'est une série qui, alors, ok, elle donne des caries rien qu'en la regardant tellement c'est sucré, mais c'est justement pour ça que ça plaît, c'est pour cette raison, c'est parce que c'est du bonbon. On voit une jeune femme active, aimable, joyeuse, enthousiaste, et ça, ça fait plaisir. Une expatriée qui vit à Paris, ville de ses rêves, et qui vit comme dans un rêve. Et voilà, on est invité exactement dans ce
avec
monde enchanté.
Avec des injections canines quand même.
Oui,
à la
oui.
De la maison.
C'est vrai. Mais voilà, c'est quand même un monde enchanté dans lequel on est invité avec cette néo-princesse au look soigné. Voilà, et je suis très jalouse de son dressing vintage.
Ça ne m'étonne pas, vous êtes jalouse de toute façon.
Mais
par
oui,
nature,
hein.
J'allais dire. Benoît, une série de filles, évidemment, c'était
ouais,
pour vous.
Mais non, mais si ça marche, c'est parce que c'est plein de clichés et que c'est du déjà vu.
Déjà
voilà. Oh voilà, par exemple. Non, mais alors moi, je pense que ce qui est intéressant surtout, et je pense que c'est pour ça que c'est dans ce top 10, et c'est pour ça que c'est intéressant que Emily in Paris y soit, c'est que c'est révélateur, je crois, en fait. C'est-à-dire que typiquement, Emily in Paris, il y a 10 ou 20 ans, ça aurait été sur TF1 un soir d'été, par exemple. Et tout le monde aurait regardé avec plaisir, on en aurait parlé au camping. En fait, c'est exactement ça.
Vous allez au camping.
Oui, non, mais dans les, il y a 20 ans, on allait au camping.
Non, on n'a pas le temps.
Mais voilà, je pense que c'est pour ça que ça marche. Et le fait que tout le monde le regarde aujourd'hui parce que c'est sur Netflix, même des gens pour, à qui c'est pas destiné, ben voilà, pourquoi c'est là. Du coup, il y a ceux pour qui c'est pas destiné qui le regardent vraiment avec honte et presque mépris. Et puis il y a ceux qui le regardent juste par pur plaisir et ça marche dans tous les cas.
Bon, l'essentiel, le mot est prononcé, c'est plaisir. Le plaisir que l'on y prend, bien évidemment. Prêt pour la 9e place ?
Allez.
Allez, un indice sonore.
Je suis Duncan MacLeod, né il y a 400 ans dans les hautes terres d'Écosse. Je suis immortel, tout comme une poignée.
Mais allez-y, jouez, mais
bah, enfants. Lady Duncan,
voilà, absolument. Donc, Highlander, vous l'avez reconnu, grande surprise. Alors, quand j'ai vu que Highlander remontait aux flèches, je me suis dit, bon, bah, c'est pas vrai, ils se sont donné le mot, ils ont pris quelque chose aux auditeurs, mais tant mieux d'ailleurs. 6 saisons, quand même, 119 épisodes qui ont été diffusés entre octobre 92 et mai 1998 et qui sont disponibles en DVD. Qui va acheter l'intégralité?
Il y a des aficionados. Ah, bon,
j'avais dit qu'on ne se moquait pas. Alors, Duncan MacLeod est un immortel qui partage son temps entre la boutique d'antiquaire qu'il tient avec sa compagne, ses rendez-vous chez le coiffeur pour lisser ses cheveux et réajuster son catogan, et se battre à l'épée contre des ennemis qui le poursuivent depuis plusieurs siècles. On ne va pas se priver du plaisir d'écouter un extrait, bien sûr.
Ah. Je suppose que c'est pour une sorte de caméra cachée, hein ?
MacLeod, je suis Slan Quince, et je viens te trancher la tête.
Ça, c'est vraiment pas cool, les gars.
Je sais, les présentations laissent à désirer. Mais vous serez folle de moi, ma chère.
Mac !
Tu es venu pour te battre ou pour discuter ?
Il ne va pas t'affronter, Duncan. Pas avant que tu n'aies beaucoup souffert. Pas avant d'avoir détruit tout ce à quoi tu tiens en ce monde.
J'aime bien la diction comédie française.
Ah bah ouais, elle est magnifique, la VF.
Alors, Benoît, la gars.
Oui, bah, en fait, c'est étrange que ça remonte effectivement, comme vous le disiez, Xavier.
Et à ça la remonte, fois, on a envie de
voir. Non, mais cette série remonte dans le top à tel point on pensait qu'on l'avait un peu oublié. Et pourtant, elle a marqué.
Bien sûr, mais évidemment.
C'est une des premières coproductions françaises avec une ambition de série américaine. Alors, sauf que c'était fait avec des Canadiens.
Alors, c'était Benoît Lagarde. Merci aux Canadiens. Directement son courrier.
Non, mais sauf qu'ils ont voulu faire comme les Américains avec les moyens de l'époque. C'est pas honteux en soi, fait avec les moyens de l'époque. Sauf qu'à revoir aujourd'hui, ça tient pas bien beaucoup la route, mais c'est parce qu'on est déjà à l'origine dans l'espèce de bon nanar qu'on a plaisir, je pense, à revoir juste pour se rappeler du moment que l'on a vécu à ce moment-là, enfant. Devant Highlander. Donc c'est la série doudou effectivement de toute une génération.
Elle avait un poster d'Adrienne Pou dans sa chambre, elle dormait en dessous, elle lui faisait des petits bisous à 6 ans, à Bacaen bien sûr.
Non mais c'est vrai que j'avais le droit de regarder cette série enfant alors qu'elle était un petit peu violente, donc merci maman. Moi je me souviens vraiment du générique, voilà, la voix du héros qu'on a entendu qui raconte son histoire en préambule. Ce morceau de Queen qui est quand même hallucinant, les combats à l'épée de Duncan, les allers-retours voilà, que fait celui-ci entre sa vie civile et sa vie d'immortel, et puis même l'apprentissage de nouveaux mots hein, comme le quickening qui était la puissance de l'éclair. Donc oui, c'est vraiment une série B qui s'assumait telle qu'elle et qui a extrêmement de charme. Et puis il faut quand même dire qu'au casting on retrouvait Alexandra van der Noot, actrice belge donc, qui était la compagne de Duncan, et puis il y a quelques apparitions d'acteurs internationaux comme Ron Perlman qui était dans Hellboy, et côté français Marion Cotillard, Olivier Marchal et Claire Kame. Donc voilà, c'était pas rien quand même.
Très bien. Elle est une immortelle, bien sûr, mais le temps n'a aucun effet sur elle. Isabelle Danel, un petit souvenir d'Highlander ?
Écoutez, moi je crois que j'ai pas compris le concept parce que normalement il doit en rester qu'un et je suis restée zéro, moi, devant mon écran. C'est-à-dire que j'ai pas vu les 119 épisodes, j'en ai vu un et je suis honnête parce que je l'ai revu et je me suis souvenue que je l'avais vu. Mais voilà, je sais pas si c'est le catogan, j'ai du mal avec les hommes à queue de cheval. Le quickening, moi je m'étais dit ça doit être sexuel, pas du tout. Enfin bon, voilà, je suis passée à côté.
Isabelle Danel a un problème avec les hommes à queue de cheval. Ça restera dans les annales. Alors, petite pause. Elles n'ont pas assez reçu de vote pour figurer dans le top 10, mais elles ont été citées assez régulièrement. Et elles ravivent du coup évidemment des petits souvenirs. Alors, 4 petites pauses, 4 petites chroniques à l'intérieur de cette émission pour se rappeler thématiquement effectivement de ces séries qui ont accompagné notre enfance. Et on va commencer par saluer le girl power, bien évidemment, et avec en tête... Wonder Woman. Heureusement qu'on n'est pas à la télévision, ils sont tous en train de tourner sur eux-mêmes. Mais heureusement, personne n'a terminé un chamboulant. Voilà. Bah oui, Wonder Woman, c'est la série honteuse, doudou, ringarde, délicieuse. Linda Carter, merci. Ont été également cités Super Nana, les Powerpuff Girls, dessin animé génial, féministe que j'adore. Et puis quand même, la crypto-lesbienne qu'on adore, Xenia, la guerrière, voilà. Alors, elles auraient été formidables qu'elles soient dans le top 10, elles ont affleuré le top 10, elles n'y sont pas, mais pour autant, on voulait leur rendre hommage. Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps dans tes bras. Car dans mes yeux, ça se voit. La fièvre dans les yeux, oui, ça se voit. Mon cœur se serre, j'ai du feu dans la voix. Le plus souvent, c'est quand je pense à toi. Fièvre par Dua Lipa et Angèle, un morceau résolument girl power, pop et libérateur, chanté à deux voix, écrit à quatre mains et en ping-pong, car les deux artistes se sont envoyés des SMS pour composer cette chanson. Angèle était à Paris, Dua Lipa était aux États-Unis, et c'est un titre qui permet aux deux artistes, au diapason de leur désir de liberté, de chanter leur envie de fête et des autres, comme on les comprend.
Une heure en série, vos 10 séries les plus honteuses.
Là, c'est très honteux, mais je le comprends tout à fait. Je vis avec quelqu'un qui se gausse à chaque épisode. Petit indice musical.
On l'a,
mais est-ce qu'on laisse le suspense un petit peu? Non, parce que musicalement, c'est pas historique.
Scène de ménage.
12 saisons à ce jour. Un nombre infini d'épisodes disponibles encore et toujours sur M6. Alors le résumé, il tient sur un ticket de métro, ils sont jeunes ou moins, urbains ou campagnards, ils vivent en couple ou en famille depuis toujours ou plus récemment, et ils s'embrouillent surtout pour les petits riens du quotidien.
Voilà, ça fait un certain temps que nous avons des activités culturelles avec Huguette. Alors au bout de combien de temps vous avez commencé à en avoir marre d'elle?
Attendez, marre, comment, au point de soupirer à chaque fois qu'elle dit quelque chose?
Non, c'est pas ça. C'est...
D'être irrité par sa seule présence?
Oui, voilà, c'est exactement ça.
Ah bon, c'était assez rapide, hein? Quelques semaines après notre rencontre. Ouais.
Ah bon? Alors, je suis dans les temps.
Vous en faites pas, c'est totalement normal, mon cher.
Il me fait poète-poète, je lui fais poète-poète, on se fait. Alors, Roro, on y va?
Voilà, nous avons reconnu les voix de Marion Gamme et de Gérard Hernandez, couple phare de cette série courte. Hein. Ce sont des épisodes de 4-5 minutes et des sketchs encore plus brefs, bien évidemment, où on peut retrouver d'excellents comédiennes et comédiens comme Valérie Carcenti, 4 millions de téléspectateurs chaque soir pour assister à ces joutes conjugales. Et moi, j'ai avoué que certaines, effectivement, me font rire, me font sourire. Benoît ?
Alors moi, ça ne me fait pas toujours rire, mais en revanche, ce qui est bien dans cette série, je pense que c'est pour ça que ça marche et que les gens aiment la retrouver, c'est que les personnages sont extrêmement attachants et qu'il y a l'effet un petit peu miroir grossier, mais malgré tout, de la vie de chacun. Le fait qu'il y ait tous ces personnages de générations différentes, c'est dans la tradition de la shortcom, à ce genre pourtant, avec un mot anglicisé très français, de ces séries de format court. Donc après, un gars, une fille, caméra, café. Voilà, c'est le rendez-vous, c'est une série, mais au fond, il nous accompagne. Et je pense que la grande idée, c'est d'avoir réuni dans le casting des gens de télé, en fait. Et Gérard Hernandez ou Marion Gamme, c'est des gens, et à la fois du théâtre de boulevard, et à la fois de la télé, des voix que l'on a identifiées. Deux personnes qui jouaient, par exemple, dans l'Académie des Neufs ou dans les Jeux de 20h, il y a très longtemps.
Avakaène.
Bah moi, très honnêtement, c'est pas ma tasse de thé, mais je comprends les raisons du succès de cette série, comme tu l'as dit, Benoît, chorale, multigénérationnelle, parfois grivoise, souvent bon enfant, une série de proximité, voilà. Comme l'était quelques années plus tôt, tu l'as dit, un gars, une fille, on rit de bon cœur des travers de chacun, de tous. Après, ce qui me dérange un peu, c'est le manque de diversité et de représentativité des couples français. Je trouve que c'est dommage qu'une série qui mise sur des personnages qui, justement, sont censés nous ressembler, oublie de parler de tout le monde, quoi. C'est un petit peu ça.
M6 avait songé à un moment un couple de deux garçons, mais finalement, ils ont reculé, ce qui est dommage parce que maintenant, ça pourrait quand même tout à fait drôle. Et alors, surprise, les couples homosexuels s'engueulent comme les couples hétérosexuels, ce qui est quand même effectivement le scoop de la journée. Isabelle, un petit mot, je sais que c'est pas votre tasse de thé.
Non, c'est pas ma tasse de thé, mais cela dit, moi, j'aimais énormément le couple Audrey Lamy et son camarade Lou Denis Elion, qui est un super comédien. Et ils sont tous très bons, mais moi, je me retrouvais plus dans ce couple-là, alors que c'est pas mon âge, mais je les trouvais plus juste dans l'ironie, dans les énervements et tout ça.
Bah oui, elle est de mauvaise foi.
Elle est de mauvaise foi, voilà, donc ça me va très bien. J'ai plus de mal avec Marion Gamme, que j'aime comme actrice, mais j'ai plus de mal parce qu'il y a des méchancetés gratuites avec la femme de ménage, notamment, ou leurs enfants, qui me dérangent, moi, humainement.
Voilà, c'était donc la place numéro 8, scène de ménage, et pour la place numéro 7, alors là, je vais faire appel à votre mémoire télévisuelle, essayez d'identifier le générique.
Oh. Ouais. Les premières notes,
c'est bon, quoi.
Ouais.
Ah, 13h30, Mémé dans son canapé, qui s'endort devant
les feux de l'amour.
Eh oui, les feux de l'amour. 48 saisons, mon Dieu. 12 000 épisodes à ce jour. Que TF1 diffuse et rediffuse. Alors, le résumé, j'essaye. L'histoire s'articule autour de plusieurs familles vivant à Genoa City, dans le Wisconsin. Au début, le feuilleton était centré sur la rivalité entre les Brooks et les Foster. Là, je lis un tout petit peu parce que je ne suis pas sûr de dominer le sujet. Mais désormais, tout le monde se fout sur la gueule, couche avec tout le monde et trompe tout le monde. C'est un peu comme ici. Tout les divise, mais une seule chose les unit. Il et elle passent leur temps à se laquer les cheveux et à se refaire une permanente.
Quand je t'ai demandé ta main tout à l'heure, je m'y suis mal pris.
Victor, tu n'es pas obligé.
Non, tu as raison. Je suis un homme très chanceux. Je suis parti de rien et j'ai bâti un empire. J'ai une fortune, de très beaux enfants, des petits-enfants. Mais sans toi, tout cela ne vaut rien. La dernière fois que tu es parti de Genoa, tu es venu me voir et tu m'as dit que personne ne m'aimerait jamais comme toi. J'ai compris que tu étais ma raison d'être.
On l'en prend une leçon de comédie.
Ah ouais. Ouais.
Je sais qu'Ariane Ascari nous écoute parfois. En tout cas, Ariane, là, prenez des leçons, j'ai envie de vous dire. Parce que ce phrasé extraordinaire, chère Isabelle Denel. Les feux de l'amour. Vous qui vous embrasez si facilement.
C'est cela, oui. Je crois que là, il faut un sociologue, quoi. C'est hors du temps, c'est hors des mondes, hors des modes. Bien que jeune et agitée moi-même, car je vous rappelle que le titre original, c'est quand même The Young and the Restless. Donc, bien que jeune et agitée moi-même, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre cette longévité-là, quoi. Parce que c'est typiquement américain. Après, c'est vrai que nous, on regarde ça en en s'amusant, quoi, parce que c'est assez drôle. Je veux dire, il y a des manches ballons avec des dorures, des chevelures platines, enfin tout ça brille de mille feux. C'est bien les feux de l'amour. Le titre français est extrêmement bien trouvé.
Quoi. Qui osera assumer qu'en regardant, il y a une espèce de fascination.
C'est
on peut situer à n'importe quel niveau, mais on est à un moment, on finit par, au bout de deux épisodes, par être pris dans ce maillage de trahison, de machin, de trucs. Oui. On a envie de savoir. Donc ça marche d'une certaine manière.
C'est la grande récréation, en fait. Il y a un côté un peu comme ça. Il y a des rebondissements permanents, parfois jusqu'à l'absurde, mais c'est vraiment ça qu'on aime et qu'on attend de la part des Feux de l'amour. Voilà, la musique qu'on a entendue, elle est éternelle et ça participe, je trouve, aussi de ce côté attractif. La moustache de Victor Newman, le papa de Victoria, Nicolas, Adam, Abby, Maria, Nikki, puis Ashley, puis Diane, puis Nikki encore. Voilà. Franchement, la généalogie des Feux de l'amour, elle est bien plus complexe que celle de Game of Thrones, donc il faut vraiment se réhabiller. Et puis surtout, on perd jamais nos repères. Moi, c'est ça que je trouve très 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 fort dans cette série. C'est un peu le principe, de ce genre de feuilleton fleuve et chorale où on nous rappelle en permanence où on est. Il y a des mises à jour permanentes. Quoi, tu as rendez-vous avec Nick, le fils de Victor, l'ex-mari de Sharon, l'oncle de Connor qui a eu un accident de voiture mais qui n'est pas mort dedans. Voilà, c'est un petit peu ça et c'est pour ça qu'on tient.
Benoît, très bref mot à propos des Feux de l'amour.
Si ça marche, c'est que c'est les romans photos en fait. Oui. C'est les romans photos à la télé. Et quand ça passait longtemps à 13h30 après le journal, il y avait quelque chose comme ça qui accompagnait les gens. Et on a pu voir, effectivement, la série avait commencé en 73 aux États-Unis. Nous, elle est arrivée en 89. Donc, c'est dire le nombre d'épisodes que l'on n'a pas vu. C'est pas grave parce qu'effectivement, comme vient de le dire avant, on peut rentrer en permanence, on peut en sortir et on peut revenir à tout moment. Et ça n'a pas bougé. Sauf les comédiens qui ont un peu vieilli. Et aujourd'hui, c'est les Feux de l'amour qui sont malheureusement un peu vieillissants.
Oui, mais qui se placent quand même septième de notre top 10. Deuxième petite pause en rapport direct avec les Feux de l'amour. Les séries choucroutes qui ont détruit la couche d'ozone, qui ont foutu en l'air le budget avec des sommes de lacs ahurissantes. Et évidemment, le générique, vous allez le reconnaître tout de suite.
La croisière s'amuse. Merci, Captain Stubbing.
À la fois irregardable et on aime pas l'épisode tellement c'est formidablement fait. La croisière s'amuse à Love Boat,
avec des sacrés guests
de l'amour. Ouais, tout le monde y était, tout le monde voulait y aller. Alors c'est voilà, ça fait partie des petites séries qui ont été citées, pas suffisamment pour être dans le top 10. Il y a eu aussi Madame et Servie, dont je crois qu'un reboot, une suite, va être produite dans l'année.
C'est ça.
Et puis côté choucroute aussi, comment oublier Dr. Quinn.
Ah bah oui.
Comment vous allez faire de la chirurgie à l'époque du western et du Far West avec la choucroute quand même.
Et prescrire des décoctions de clous rouillés. Vous vous souvenez de ça? J'avais adoré ça.
Pas bien.
Faut avancer, faut foutre les fers.
formidable. Je ne connaissais pas, merci à Muriel Perret. C'est le trio Delgrès et le titre c'est 4 Ed Maten. Vous allez comprendre dans quelques instants. Un trio composé de Pascal Danaé, Baptiste Brondy et Raf Gay qui dévoile donc un nouveau titre, prémisse d'un nouvel album qui sortira en début d'année prochaine, 4 Ed Maten. En antillais, ça veut dire 4 heures du matin. C'est un hommage que Pascal Danaé lance à son père, mais surtout un hymne prolétarien et engagé dédié à tous ces ouvriers antillais qui sont venus en France pour être employés et exploités dans les chantiers de notre bel hexagone. C'est musical, c'est politique, c'est engagé, on adore.
Une heure en série, vos 10 séries les plus honteuses.
Qui est en 6e place, petit indice musical. Là, je suis chez moi, lundi soir.
La série préférée de Xavier, chers auditeurs, sachez-le. On avait eu droit à un plateau télé avec Xavier.
Je sors du placard, je n'ai pas honte de le dire. C'est
Meurtre au paradis.
9 saisons à ce jour, la 10e en cours de tournage. 72 épisodes diffusés sur France 2. Alors, un Whodunit typiquement british se déroulant néanmoins sous le soleil brûlant des Caraïbes. Le postulat est identique depuis le début, même si le casting a régulièrement changé. Un flic londonien accroté à la grisaille urbaine débarque dans une île où pullulent moustiques et meurtre. Un fin limier que la chaleur dérange, mais dont les petites cellules grises fonctionnent à plein régime, secondé dans ses enquêtes par une toujours ravissante policière native de l'île fictive de Sainte-Marie.
L'inspecteur Poole est sorti à 17h20 avec un livre. Il s'est assis là.
Il s'est assis dos à la maison.
Oui, monsieur.
Bien.
À peu près une heure plus tard, Angela Birkett est sortie pour lui demander s'il voulait un cocktail. C'est là qu'elle l'a trouvé, avec un pic à glace dans la poitrine.
D'accord.
On a une tasse de thé vide et un bol vide avec les restes de chips qu'il avait mangé posés sur la table. Et le livre était par terre. Ce livre, c'est un peu mystérieux.
Pourquoi donc ?
Il est en français.
L'inspecteur ne parlait pas français ?
Non.
C'est un livre en français, c'est lui, bien évidemment. Une série créée par Robert Thorogood, avec entre autres Ben Miller, Sarah Martin, Chris Marshall et désormais Ralph Little. Sans oublier, puisqu'elle est là depuis le début et c'est pour notre plus grand bonheur, pour le mien en tout cas, la toujours exquise Elisabeth Bourgine, Isabelle Danel.
Bah oui, mais moi j'aime grâce à elle parce que sa présence suffit à mon bonheur dans le rôle de Catherine Bordet, qui est la mère du sergent Camille Bordet, interprétée par Sarah Martin, ce qui hélas n'est plus dans la série mais que j'aimais beaucoup. Le mélange de vaudou, de calypso, de rhum et de soleil, je trouve que ça fonctionne, quoi. Donc, je comprends votre addiction. J'avoue que je la partage pas complètement. Je regarde quand ça me tombe sous les yeux, mais je ne suis pas devant ma télé pour le regarder.
Faites-moi
mais
confiance.
Je comprends que ça marche.
Il y a deux, trois intrigues de meurtres en chambre close. Moi, j'adore les meurtres en chambre close qui sont extrêmement bien écrits. Avakaen.
Bah, le principal atout de cette série BBC, c'est quand même le cadre, hein. Pour moi, c'est ça qui me fait complètement rentrer ou adhérer à ce programme. J'ai comme toi, Isabelle, quelques petites réserves. Peut-être que je passerai pas, tous mes week-ends à regarder ça. Mais cependant, je comprends très bien les raisons pour lesquelles ça fonctionne. Ce duo, tout à fait en décalage. Voilà, cet inspecteur hors de sa zone de confort, cartésien, grincheux, mais séduisant, épaulé par cette femme qui a autant de répondants que d'instincts. Donc voilà, les acteurs font bien le job, même si le casting a beaucoup évolué. Tu le disais, Isabelle, et pas toujours pour le meilleur. Mais le succès de la série demeure malgré tout. Et ça veut dire que la formule, elle fonctionne et qu'un lien a été tissé. Voilà. C'est sans prétention, c'est efficace, c'est vrai que ça se regarde sans déplaisir.
Ah, merci.
c'est l'inspecteur Barnaby au soleil. C'est dans cette tradition-là.
Rien plus rythmé que Barnaby, quand même.
Oui, mais je veux dire qu'on est dans la série d'enquête traditionnelle, simplement, qui est dynamisée effectivement par le lieu et puis par la décennie. Il faut dire que Barnaby, c'est vieux comme la télé, alors que là, on est quand même dans la dernière décennie. Donc, forcément que c'est un peu plus rythmé. Donc, c'est une série héritière d'un genre hyper présent à la télé depuis toujours. Donc, c'est pour ça qu'on est comme dans des chaussons. Quand on regarde ce genre de série. Moi, voilà, je trouve que c'est toujours efficace, toujours plaisant à regarder. Et on a l'impression, quand on regarde ce genre de série, qu'on regarde la télé d'il y a 20 ans, et c'est très bien.
Puis moi, j'aime qu'on convoque tous les suspects dans les 10 dernières minutes. Oui. Tout le monde se regarde avec des grosses gouttes de sueur et tout ça. Et tout le monde a touché au pic à glace, donc ça, aussi dans les annales de notre amour pour les séries. Alors, la 5e, on va écouter la musique. Petit indice, c'est la série préférée du fils d'Amel Kaldi avec laquelle nous préparons l'émission.
La vie est plus belle.
Voilà. Tous les soirs, Elia Bono Kaldi regarde. Prends des notes, se renseigne. c'est sans doute le meilleur expert. Voilà, il n'est pas avec nous, mais Elia, tu as tout à fait raison. On a reconnu le générique de Plus belle la vie, vous avez tous chanté. 16 saisons, 4065 épisodes à ce jour, diffusés sur France 3. Et un succès indéfectible, puisque près de 4 millions de téléspectateurs par soir regardent donc Plus belle la vie. Résumé, alors là, 3 secondes, la vie quotidienne du Mistral, un quartier imaginaire, mais très ressemblant de Marseille.
La première fois, c'est de la merde en règle générale, quoi. Tu vois, donc te fous pas la pression.
J'aimerais bien que ce soit cool, moi.
Bah ouais, sauf que tout ce que tu peux faire, c'est limiter la casse, hein.
Et comment je fais pour faire ça?
Bah, le plus grand danger, c'est quand même que tu termines avant que ça commence.
Ouais, c'est l'éjaculation précoce.
Voilà. Alors tu te fais un petit plaisir solo une heure avant et hop, c'est parti.
Ouais, mais je sais pas exactement quand est-ce qu'on va le faire, tu vois.
Mais j'en sais rien, moi, tu vas aux chiottes quand elle arrive, tu sais. Et entraîne-toi à mettre une capote, hein, parce que si tu la mets, elle tombe par terre. Tu mets un quart d'heure à l'enfiler.
Ok, merci, merci beaucoup.
Ou alors tu la mets mais mal.
D'accord.
Du coup ça te fait mal à la queue.
Margot, j'ai compris. Merci.
Voilà un extrait très classe pour une série créée entre autres par Hubert Besson, Georges Desmousseaux, Bénédicte Achard et Magali Richard Serrano. On va, il y a plein de comédiens formidables, Michel Corde, Ambroise Michel, Aurélie Vanek, enfin voilà, ou encore Laurent Kérusoré. Alors, je ne sais pas pourquoi, vous ne voyez aucun rapport de ce que vous avez fait entre l'extrait et le fait que je vous passe la parole, cher Benoît, après l'éjaculation précoce, Plus belle la vie. Comment expliquer un tel succès? Si ça se comprend, mais rien qu'avec l'extrait quand même.
Oui, en fait, c'est une série qui a pris le parti dès le départ d'être le feuilleton quotidien, donc le soap-opéra, mais plus nourri de l'exemple anglais, c'est-à-dire que ça allait être sociologique. C'est-à-dire qu'on allait montrer la France en petit, quoi, dans ce quartier du Mistral.
Il devance même certains débats sociétaux.
Oui, c'est ça. Alors, au début, ça a mis du temps parce que justement, ils étaient peut-être un peu trop sur le sociologique, puis le polar est rentré en ligne de compte dans le feuilleton et ça a dynamisé vraiment le récit et ça a permis à ce moment-là d'avoir le public qu'il a aujourd'hui. C'est une série qui, en fait, on s'en rend peut-être pas très compte, mais ça fait 16 ans. Donc, en fait, ça a touché plusieurs générations. Donc, il y a les enfants d'Amel qui regardent, mais moi, il y a mes beaux-parents qui regardent, mes enfants, quand ils partent en vacances, regardent. Enfin, il y a toutes les générations qui regardent, et même moi, qui peux regarder à l'occasion Plus belle la vie, parce qu'en fait, ça parle à tout le monde, et c'est pour ça que ça marche autant Plus belle la vie.
Avec Anne, vous regrettiez tout à l'heure à propos de scènes de ménage, par exemple, qu'elles ne prennent pas assez le pouls de la société. Là, on a des mariages homosexuels, des familles recomposées. Là, on y est pleinement.
Mais complètement.
Pas trop.
Non, pas trop. Moi, j'ai l'impression, au contraire, et je trouve ça très audacieux qu'un programme, voilà, grand public, familial, en prime time, parle et décide de parler de toutes ces problématiques d'actualité, de sujets de société. Donc, c'est une des raisons, effectivement, du succès de cette série, qui séduit les spectateurs parce qu'elle raconte leurs problèmes de tous les jours, dit l'actrice qui joue Blanche. Voilà. Et on est transporté, c'est vrai, dans le quotidien du Mistral, comme s'il faisait partie, voilà, de notre quartier à nous. Et c'est bien la preuve que aussi en France, eh ben, on sait faire du soap, qu'on sait maîtriser ce genre-là, c'est populaire, ça fédère et c'est dans l'air du temps.
Isabelle Danel.
Oui, je trouve que ça a bien évolué. Moi, j'avais vraiment beaucoup de mal au début.
Oui,
hein, objectivement,
clairement.
Moi, je tenais 2 secondes devant un épisode. Mais je trouve qu'ils ont vraiment réussi à choper un truc. Et puis, par ailleurs, moi, ça m'intéresse parce que ça fait travailler 700 à 800 intermittents par mois.
Très juste.
Trouve que c'est une bonne nouvelle. Voilà.
Et un petit hommage à Pascal Robert, qui était dans la série qu'on aimait tant chez Robert Guédiguian, entre autres, et dans Les Saintes Chéries en particulier.
Juste une question, savez-vous comment devait s'appeler cette série au départ?
Non.
Mistral gagnant.
Ah, c'était logique.
Merci.
Voilà, c'était juste pour un quiz.
On se refait une petite pause. Ces séries qui ont été citées, mais pas suffisamment pour figurer à notre top 10, car vous êtes en train d'écouter une heure en série spéciale. Top 10 séries honteuses, mais avec énormément de tendresse et de bienveillance derrière le mot. On va se rappeler des séries consacrées à des mecs qui en ont été bien burnés, et évidemment. Monsieur Bricolage,
plus sexy quand même.
La coupe ruinée, va voir qu'on y revienne quand même, un tout petit peu avant. Il y a quelqu'un également qui a voté pour Hulk. Vous souvenez, David Banner, voilà, qui s'énervait beaucoup très. Et puis, j'ai eu un vote quand même. Et ça, merci pour l'homme de l'Atlantide, Patrick Dufy, en homme poisson.
C'est là où on a appris que Bobby Ewing était un homme poisson quand même. Ça nous a fait bizarre à l'époque.
Amphibie, mais moi, je vous avouais que je regardais ça le samedi.
Mais moi aussi.
Avec beaucoup de plaisir.
Ah, j'aime bien.
can get no satisfaction par les Rolling Stones, un tube interplanétaire et inaltérable. Alors, je vais pas vous faire croire que je suis un spécialiste des Rolling Stones. Je vais laisser Rebecca Manzoni, à qui je vais emprunter quelques mots, le dire à ma place. Les Stones ont fait main basse sur le siècle avec Satisfaction et son riff de guitare distordu. À l'époque, les micros ressemblent aux goupillons des curés et Mick Jagger répand la bonne parole d'une voix douce d'abord. Après quoi, il délaisse sa voix de crooner pour une première montée de sève. Comment a-t-elle raison? Annonçant le refrain qu'il va hurler comme un chanteur.
Une heure en série, vos 10 séries les plus honteuses.
Celle-là est très honteuse, mais j'ai voté pour, elle est en quatrième position. Allez, tâchez de la reconnaître.
Merci à toi, mon ami.
Tant, 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 tant.
Merci.
Les craquantes. The Golden Girls. Cette saison, 180 épisodes diffusés entre 1985 et 1992. Ah non, mais c'est inaltérable, c'est formidable. Alors l'histoire, quatre retraités, hautes en couleur, cohabitent dans une maison à Miami. Il y a Rose, éternelle ingénue et coincée qui vient du Minnesota, blanche, originaire d'Atlanta. C'est la plus délurée des quatre, hein, toujours accro aux hommes et au sexe. Dorothée, la new-yorkaise la plus sensée du groupe, qui essaie tant bien que mal d'apporter un peu de bon sens à ce foyer atypique. Sans oublier, bien sûr, Sophia, sa mère, une Sicilienne pure jus aux répliques perfides et assassines, comme vous allez pouvoir l'entendre.
Je traite mon petit corps comme une œuvre d'art.
Oui, offert à tous les publics, nuit et jour.
Nous sommes au milieu d'une leçon de maquillage.
J'espère que tu écoutes cette petite, tu te maquilles comme Miss Peak.
Si par hasard vous aviez des insomnies, je viendrai vous chanter Kumbaya.
Je ne sais pas quoi dire.
Je vous interdis de le faire.
Pourquoi êtes-vous de si mauvaise humeur, Sophia?
Excusez-moi, ma chère, mais ça fait 15 ans que je n'ai pas fait l'amour et ça finit par me porter sur les nerfs.
Les années passent, le corps s'affaisse, le visage se ride, pire encore, qui m'est insupportable, les cheveux deviennent gris.
Ce n'est qu'une question de temps avant que je ne finisse par vous ressembler à toutes les deux.
Arrêtez pour prostitution! Ce qui me surprend, c'est qu'on pense que les hommes seraient prêts à payer pour coucher avec vous.
Voilà, si vous vous demandez d'où me vient ma méchanceté naturelle, j'ai tout piqué aux craquantes. Bien évidemment, je ne serais rien sans elle. Une série créée par Suzanne Harris, produite par Mark Cherry, scénariste sur Desperate Housewives et Why Women Kill, dont nous avions parlé dans cette émission, avec Béatrice Arthur, Rue McClanahan, Betty White et Estelle Getty. Moi, j'adore. Maintenant, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Benoît.
Mais moi, pour moi, c'est pas du tout une série honteuse. C'est même une grande série, en fait.
On est d'accord.
C'est une très, très grande série. D'ailleurs, c'est une des premières en France qui a été diffusée en version originale, oui, sous-titrée, ouais, c'était dans Continental d'Alex Taylor sur FR3 à l'époque. Et donc, en fait, c'est une vraie tradition de la sitcom où les femmes ont toujours eu une place importante. Donc, c'était normal, à partir du moment où il y avait Lucille Ball en 51, c'était normal qu'on les retrouve à l'âge d'être en maison de retraite dans Les Craquantes. C'est impertinent, enfin, c'est génial.
Elles sont nos deux craquantes, évidemment, Isabelle Danel.
Alors, les vieilles dames indignes, c'est toujours réjouissant. Et là, ça fonctionne du diable, quoi. C'est vrai, je suis d'accord avec Benoît, c'est pas du tout une série honteuse. Enfin, je trouve que ça
c'est
se revoit.
C'est pas c'est très bien mis en scène, il, oui, y a un décor.
Mais ah,
c'est
elles, elles sont indémodables. Mais il y a un vrai dispositif de ces quatre personnages qui fonctionne extrêmement bien. La plupart du temps, il y a deux décors. C'est la cuisine le plus souvent ou le salon.
Vous avez vu la version luxe, vous.
Mais, je veux dire, je fais ce que je veux de ma vie, je suis libre, célibataire et j'ai 80 ans. Moi, ça sera mon mantra quand j'aurai l'âge, quoi. C'est Sophia qui dit ça. Je trouve ça extraordinaire. Donc, il y a des dialogues formidables. C'est un peu coquin. Ça fonctionne très, très bien. Elles sont géniales. Les actrices sont top.
On peut parler quand même d'un humour à la fois féministe et très queer. C'était très, quand même l'équipe de gays qui était
mais
derrière.
Mais moi, c'est pour ça que je craque, hein, pour ces nanas from Miami, évidemment. Mais oui, c'est vrai. Il y a une ingénue, il y a une nymphomane, il y a une divorcée. On croirait presque déjà le pitch de Desperate Housewives. Voilà,
ou le casting de Laurent Chéry, tout selon.
Éventuellement, qui, voilà. Non, mais ça a connu un succès d'audience impressionnant, hein, aux États-Unis, et son final a été suivi par plus de 20 millions de téléspectateurs, ce qui est colossal. Puis elle a été adaptée à l'étranger, notamment en Angleterre sous le titre Brighton Bell. Mmh. Et il y a même eu une version espagnole, Las Chicas de Oro, avec l'actrice Carmen Maura. Et elle a vu le jour en 2010 et a connu un grand succès là-bas aussi.
C'est totalement mérité. Arriverez-vous à reconnaître le générique de la série qui se place en troisième? Oh. C'est très difficile.
Un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop.
Allez-y, je vous laisse.
Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un zeste qui veut dire Zorro.
Zorro, Zorro. Et oui,
Zorro est là, occupe la troisième place. Oh là là. Alors, bizarrement, il n'y a eu que deux saisons de Zorro. Oui. 78 épisodes, 4 téléfilms qui furent diffusés entre 1957 et 1961. Et puis, de façon quasi ininterrompue en France, hein, depuis 1965, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas Zorro. Quelque part, à ce jour, c'est sur France 3. Alors, pour ceux qui habitent la planète Mars depuis 20 ans et qui reviennent sur Terre pour les fêtes, on va rappeler le résumé. Le jour, Don Diego de la Vega est le fils d'un riche propriétaire terrien en Californie, mais là, des injustices et des mauvais traitements subis par les paysans opprimés, la nuit venue, il se transforme en un justicier masqué. J'ai jamais compris comment les gens ne le reconnaissaient pas. Petite moustache quand même, ça me semble évident. Ça il est secondé par son fidèle et muet complice Bernardo. Il rend la justice, lutte contre d'infâmes notables, ridiculise le ventripotent Sergent Garcia et humilie ses adversaires d'un Z qu'il signe à la pointe de son épée.
Buenas noches, señor. Et soyez le bienvenu à Los Angeles.
Qui êtes-vous?
On me donne pas mal de noms, señor. Mais vous, appelez-moi Zorro.
Que faites-vous dans ma chambre?
Disons, si vous voulez, que je ne suis pas en visite officielle. Je suis venu vous dire ce qu'un étranger peut espérer lorsqu'il vient à Los Angeles. Eh bien, nous vivons dans un pays de rêve ici. Le soleil y luit chaque jour et l'air y est doux et léger. Et d'autre part, seigneur, vous pouvez dire que je viens vous donner un conseil.
À la pointe de l'épée, il est facile de conseiller.
Vous êtes à peine arrivé que vous insultez une jeune demoiselle. Vous provoquez en duel un jeune garçon sachant qu'il est inexpérimenté, lâche que vous êtes.
Vous osez me traiter de lâche?
Oui, parfaitement.
Je demande à croiser l'épée avec vous, Seigneur Zorro. Et nous verrons bientôt lequel de nous deux est lâche.
Mais que faites-vous dans ma chambre? À la sortie du contexte, évidemment, on s'est tous un tout petit peu moqués. C'est créé par Johnston McCulley, une série culte s'il en est, avec Guy Williams et Henry Calvin, qui réunit encore et toujours, à ce jour, 1,5 million de spectateurs quand elle passe sur France 3. Alors, qui va être le vengeur masqué de ce débat? Tiens, Isabelle Danel.
Eh ouais, parce que pour moi, c'est en noir et blanc. Ça a été colorisé, hein, les épisodes qui
vous
passent maintenant.
Vous avez raison de
mais,
le signaler.
Mais pour moi, c'est en noir et blanc ou rien. Ça a fait mes jeudis, c'est vous dire de quelle époque je viens. Et bon, il y a eu tellement de rediffusions que je crois que j'ai vu tous les épisodes au moins 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est terrible, mais effectivement, c'est une série doudou. Avant les super-héros et tout ça, auxquels on n'avait pas forcément accès à ce moment-là à la télévision, il y a vraiment ce personnage de justicier qui fonctionne extrêmement bien, quoi. Après, moi, j'ai plus de mal, et j'ai toujours eu beaucoup de mal avec le sergent Garcia, parce que ça me dérangeait qu'on se moque de lui. Donc ça, c'est un petit bémol à la série que je trouve un peu facile. Mais sinon, le personnage du sourd-muet, enfin, qui n'est pas sourd en l'occurrence, est extraordinaire. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et il y a des femmes fortes.
Et il y a des femmes fortes. Très bien. Alors, parlons de femmes fortes, justement. Avakaen, une vraie question, pour ou contre la moustache?
Mais pour. Moi, je suis toujours pour
mais
la
ça
moustache.
Ça le dénonce tout de suite.
Mais c'est pas grave. On reconnaît sa voix. Exactement. Non, mais tant mieux qu'on le reconnaisse. Non, mais c'est un héros transgénérational, en fait, Zorro. Et c'est ça qui est très beau. Il porte drapeau de valeurs nobles, comme la défense des pauvres et des opprimés. Et alors, moi, j'ai deux petites infos qui ne mangent pas de pain. Guy Williams a eu 4 montures répondant au seul nom de Tornado. Et en se battant au fleuret non moucheté, il a été blessé 2 fois au menton et à l'aine. Voilà les risques du métier.
Ouais, c'est beau la balafre comme ça d'un héros. Il a reçu à nouveau un costume de Zorro, puisque cela fait quelques années qu'il le commande chaque année à Noël. Donc hier, vous l'avez porté. Fait. Aujourd'hui, non, mais bon,
j'aurais pu.
Zorro, évidemment, Benoît Lagan, c'est vous.
Oui, complètement. Non, c'est pas moi, mais c'est moi enfant et c'est moi finalement mais adulte. C'est tout. En fait, c'est tout le monde. Et ce que vous venez de dire est au fond assez juste. C'est-à-dire que c'est le héros des jeudis après-midi, c'est le héros des samedis soirs dans Disney Channel pour les enfants comme moi des années 80. C'est le héros des enfants qui regardent le samedi ou le dimanche soir à 20h sur France 3. Ouais. Donc en fait, c'est le héros de toutes les générations. Et quand ça arrive, ben ça arrive ni plus ni moins dans le... Il y a Robin des Bois, il y a Yvan Noé, il y a Thierry Lafrande et il y a Zorro. Et on est dans la même mécanique, c'est-à-dire le héros sans peur et sans reproche qui rend justice. Et je pense que dans les années 60, c'était peut-être même beaucoup plus politique qu'aujourd'hui, quoique...
Quoique, avant de s'attaquer aux deux séries qui ont triomphé de ce top 10, une petite pause encore pour ces séries clin d'œil qui ont été nommées par les auditeurs mais qui n'ont pas été retenues dans le top 10. Il fallait parler des séries Made in France, bien évidemment, et celle qui est revenue. Il y a un avant et après.
Elle voit souvent rouge.
Voilà.
Avec qui ça bouge.
Tout le monde.
On est sous le charme.
La série qui a fait flamber l'immobilier aux Vésidés, quand même. Tout le monde voulait y habiter. Alors, il n'y a pas qu'elle dans ces séries françaises qui ont été citées. Il y a Candice Renoir. Bon, bah, ça, on sait qui a voté pour, hein. Marie-Annick R, réalisatrice de l'émission. Ça, elle n'en loupe pas un épisode.
Mais moi, j'aime beaucoup Candice Renoir.
Eh bien, vous êtes deux, désormais. Oui. Et alors, quelqu'un a voté. Et j'en suis ravi parce que moi, c'est une série que j'ai adorée enfant. C'est Les 400 coups de Virginie. Voilà. Alors, si vous aimez Emily in Paris, ben, revoyez peut-être Les 400 coups de Virginie. Alors, Isabelle, elle fait non de la tête, mais comme on n'a pas de débat, ben, vous referez non de la tête. Voilà. Bah, c'est comme
oui,
ça.
Mais
qui est en deuxième place? Petit indice musical. Where is she
been, Siri? And who am I?
Exo, Exo.
Ah là là.
Exo, Exo, you love me.
Elle va le dire, non?
Alors, bah oui, 6 saisons, Girl, 121 épisodes, voilà, Gossip Girl. Une suite est annoncée pour 2021, oui, d'ailleurs, pour cette série qui s'est arrêtée en 2012. Un reboot. La vie ultra jet set des élèves de deux écoles privées de New York, disséquée par une mystérieuse blogueuse, surnommée donc Gossip Girl, et qui passe son temps à balancer ses amis et révéler au grand jour potins et secrets honteux. On écoute un extrait.
S'il te plaît, pars pas avec lui.
Pourquoi? Donne-moi une raison. Et une bonne raison qui tienne la route.
Parce que t'en as pas envie.
C'est pas suffisant.
Parce que moi, j'en ai pas envie.
Toujours pas suffisant.
Qu'est-ce que tu veux d'autre?
La vraie raison. Celle qui m'empêchera de partir. Trois petits mots. Cette lettre. Dis-les. Et je suis à toi.
On est un peu en retard, donc on va juste dire que c'est une série créée par le binôme Josh Schwartz et Stephanie Savage qui travaille actuellement sur le reboot de Dynasty. Qui est le plus malfaisant tapis dans l'ombre? Ah, Macaëna.
Pourquoi ça devait tomber sur moi? Sinon, c'est une série qu'on adore détester comme ses pains bêches, ouais, en tailleur de marque et leur XOXO qui ponctue les épisodes. En termes de teen drama, ça a vraiment son charme. Voilà. La série met en scène des adolescents et des jeunes adultes, vous l'avez dit, riches qui viennent d'un monde à part, la grande bourgeoisie de l'Upper East Side. Ils sont beaux, ils sont méchants. Ils se gargarisent de grande littérature et de mots en français dans le texte et ils maîtrisent le planter de couteau dans le dos comme personne ou au moins l'art de mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Et les parents ne sont pas plus matures et pas meilleurs que leur progéniture, donc c'est vraiment affreux. C'est vrai que c'est un petit peu répétitif, donc on peut se lasser, mais moi je les aime bien ces pestes-là.
Très rapidement, Isabelle Danel.
Oui, moi aussi, j'aimais beaucoup ça. Enfin, en tout cas, le début. Après, j'ai un peu lâché. Mais je trouvais que ça disait pas mal de choses sur les réseaux sociaux et leurs dangers déjà à l'époque. Et c'était bien.
Un bref mot.
Oui, juste un mot, dire que si ce sont eux, les créateurs de Gossip Girl, qui derrière font Dynasty, le reboot, eh ben, c'est logique. Parce que finalement, c'est Dynasty à l'heure des réseaux sociaux et de la télé-réalité. Ni plus ni moins ça, Gossip Girl est destiné au public ado, aux teens. Et voilà. Et c'est pour ça que ça a marqué toute une génération.
Allez, fin de la révélation de ce top 10. Quelle est la série qui a été le plus citée par nos auditrices et nos auditeurs, c'est assez facile à reconnaître.
Arabesque.
On a bien vu hier quand même, hein, l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, Arabesque. Murder, She Wrote, 12 saisons, 264 épisodes, diffusés entre 84 et 96, et à ce jour, disponible sur TV Brez. Elle aurait pu mener une vie tranquille de retraitée, d'auteur à succès de romans policiers, mais non, c'est plus fort qu'elle, dès qu'il y a un meurtre, et... Ils sont pléthores dans cette série. Il faut que Jessica Fletcher s'en mêle. Aux grandes dames de la police, voire même du FBI ou de la CIA, auxquelles elle dame systématiquement le pion, révélant dans les 5 dernières minutes le nom du ou de la coupable, assassin évidemment, que personne n'avait vu venir.
Madame Fletcher, vous pouvez me l'avouer à présent, de quoi faites-vous partie?
De quoi je fais partie?
Mais je m'en suis douté après notre petite conversation dans le garage. L'allusion faite à propos des musulmans et des hindous m'a prouvé que j'avais raison. Alors c'est quoi, FBI, CIA, NSC?
Lieutenant Ames, je ne sais pas ce que vous pensez de moi, mais je ne suis qu'une simple romancière et je viens de Cabot Cove dans le Maine.
Cabot Cove, ce nom sonne vraiment bien.
Probablement parce qu'il est authentique.
Authentique?
Ah, je vous assure.
Mais oui, mais oui, mais quand vous serez décidé à me l'avouer, faites-moi signe.
Une série créée par Peter Fisher et Richard Levinson, interprétée par l'increvable Angela Lansbury, qui vient de fêter ses 95 ans. Pour info, elle n'était pas du tout le premier choix des producteurs. C'était Jan Stapleton ou Doris Day qui avait été envisagée. Et pourtant, on imagine mal la reine sans elle.
Isabelle, on a gagné au change.
Ouais, vous m'avez rectifié. Il n'y a pas que sur TV Brez que la série.
Oui, c'est aussi sur Prime Video en intégrale. J'aime énormément Arabesque. Je trouve que c'est une série. Quand ça passe, je regarde très volontiers. Il y a une grande compassion et beaucoup de bienveillance dans sa façon façon de confondre les coupables. Et j'aime toujours beaucoup sa façon d'exposer les circonstances, les raisons, etc. Et puis Angela Lansbury est une grande comédienne. Et puis là aussi, c'est les vieilles dames indignes, très actives, très souriantes, très brillantes, etc. Et ça fonctionne pour ça aussi.
Benoît. Oui, c'est une série qui est due au créateur qui avait fait Columbo quand même. Il faut juste se le rappeler. Le fait que parfois on découvre avant elle le coupable, en fait, c'est parce que c'est pas grave. C'est pas ça l'important. L'important, c'est la mécanique qui est à l'œuvre. Si on aime le genre Agatha Christie, on est complètement. C'est un hommage clair à Miss Marple et Agatha Christie.
C'est une fusion entre Miss Marple et Agatha Christie avec des guests extraordinaires. Il y a même tout Hollywood est passé.
Non, mais c'est vrai. Et puis Columbo, voilà, a son Peter Falk, Magnum a son Tom Selleck, et puis voilà, Arabesque a son Angela Lansbury. Les cheveux courts brushingés, là aussi, hein, on pourrait contacter, enfin avoir des problèmes avec la laque et la couche d'ozone. Lunettes avec correction pour presbyte, et en même temps, elle a un œil de lynx. Moi, c'est toujours ça qui m'a. Mais oui, voilà. Et puis c'est une vieille dame, effectivement, mais aussi un peu emmerdeuse, un peu fouineuse et tout. Et moi, c'est pour ça que je l'aime beaucoup.
Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir révélé, dévoilé, accompagné, explicité ce top 10 des séries honteuses, parce qu'il fallait trouver un mot générique, mais qu'on adore, et je crois qu'on en a témoigné pendant une heure en série, c'est donc fini. Merci à vous, Avakaen, dont la série honteuse est sous le soleil. Oh, voilà, vous expliquerez ça un jour.
Pour
Isabelle Danet, la demoiselle d'Avignon.
Eh oui.
Je n'allais pas tenir cette information secrète plus longtemps. Et Benoît adore Manimal. Voilà. Et moi, je ne loupe aucune rediffusion de Drôle de Dame, même la 5e saison qui est totalement honteuse. Voilà, c'est fini. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir écouté. Dernière émission de l'année. La semaine prochaine, pour commencer 2021, nous évoquerons 3615 Monique et Brave New World après Le Meilleur des Mondes d'Aldous Huxley. Une heure en série, une émission à réécouter en podcast, surtout celle-ci en rediffusion dans quelques heures dans la nuit de samedi à dimanche. Le site internet pour retrouver l'intégralité de ce top 10, Le Courrier, une émission réalisée cette année par l'immense Marie-Annick Rimbaud, qu'elle soit remerciée pour tous ses bienfaits, pour tous ses bons soins. Pareil pour Muriel Pérez et sa programmation musicale qu'on adore, et préparée avec Amel Kaldi. Je les embrasse toutes les trois très fort, et je me permets d'embrasser Julien Dumont aussi, qui était à la technique ce soir. Après les informations, nous retrouverons Eric et Quentin pour Le Grand Urbain.